Chapitre 10, la journée du 11. Cette attaque eut lieu dans des conditions si mystérieuses et si en dehors de la raison humaine, apparemment, que le lecteur me permettra, pour mieux lui faire saisir tout ce que l'événement eut de tragiquement déraisonnable, d'insister sur certaines particularités de l'emploi de notre temps dans la journée du 11. Premièrement, la matinée. Toute cette journée fut d'une chaleur accablante et les heures de garde furent particulièrement pénibles. Le soleil était torride et il nous eût été douloureux de surveiller le ramer qui brûlait comme une plaque d'acier chauffée à blanc si nous avions été munis de lorgnons de verre fumé dont il est difficile de se passer dans ce pays, la saison d'hiver écoulée. À 9 heures, je descendis de ma chambre et allai sous la poterne dans la salle dite par nous du conseil de guerre, relevée de sa garde Rouletabille. Je n'eus point le temps de lui poser la moindre question, car M. Darzac arriva sur ses entrefaites, nous annonçant qu'il avait à nous dire des choses fort importantes. Nous lui demandâmes avec anxiété de quoi il s'agissait, et il nous répondit qu'il voulait quitter le fort d'Hercule avec Madame Darzac. Cette déclaration nous laissa d'abord muets de surprise, le jeune reporter et moi. Je fus le premier à dissuader M. Darzac de commettre une pareille imprudence. Rouletabille demanda froidement à M. Darzac la raison qu'il avait soudain déterminée à ce départ. Il nous renseigna en nous rapportant une scène qui s'était passée la veille au soir au château et nous saisîmes en effet combien la situation des Darzac devenait difficile au fort d'Hercule. L'affaire tenait en une phrase. Mistress Edith avait eu une attaque de nerfs. Nous comprîmes immédiatement à propos de quoi, car il ne faisait pas de doute pour Rouletabille et pour moi que la jalousie de Mistress Edith allait chaque heure grandissante et qu'elle supportait de plus en plus avec impatience les attentions de son mari pour Madame Darzac. Les bruits de la dernière querelle qu'elle avait cherchée à M. Rance avaient traversé la nuit dernière les murs pourtant épais de la Louve et M. Darzac, qui passait tranquillement dans la baille accomplissant à son tour son service de surveillance et faisant sa ronde, avait été touché par quelques échos de cette effroyable colère. Rouletabille tint en cette circonstance, comme toujours, à M. Darzac le langage de la raison. Il lui accorda en principe que son séjour et celui de Madame Darzac au fort d'Hercule devaient être le plus possible abrégés, mais aussi il lui fit entendre qu'il y allait de leur sécurité à tous deux, que leur départ ne fût point trop précipité. Une nouvelle lutte était engagée entre eux et Larsan. S'ils s'en allaient, Larsan saurait toujours bien les rejoindre et dans un pays et dans un moment où ils l'attendraient le moins. Ici, ils étaient prévenus, ils étaient sur leur garde, car ils savaient. À l'étranger, ils se trouveraient à la merci de tout ce qui les entourerait, car ils n'auraient point les remparts du fort d'Hercule pour les défendre. Certes, cette situation ne pouvait se prolonger, mais Rouletabille demandait encore 8 jours, pas un de plus, pas un de moins. 8 jours, leur dit Colomb, et je vous donne au monde. Rouletabille eut volontiers dit, 8 jours et dans 8 jours, je vous livre Larsan. Il ne le disait pas, mais on sentait bien qu'il le pensait. M. Darzac nous quitta en haussant les épaules. Il paraissait furieux. C'était la première fois que nous lui voyions cette humeur. Rouletabille dit, « Madame Darzac ne nous quittera pas, et M. Darzac restera. » Et il s'en alla à son tour. Quelques instants plus tard, je vis arriver Mistress Edith. Elle avait une toilette charmante, d'une simplicité qui lui seyait merveilleusement. Elle fut tout de suite coquette avec moi, montrant une gaieté un peu forcée et se moquant joliment du métier que je faisais. Je lui répondis un peu vivement qu'elle manquait de charité, puisqu'elle n'ignorait point que tout le mal exceptionnel que nous nous donnions et que la pénible surveillance à laquelle nous nous astreignions sauvait peut-être dans ce moment la meilleure des femmes. Alors elle s'écria en éclatant de rire. « Ah, la dame au noir ! Elle vous a donc tous ensorcelés !» Mon Dieu, qu'elle avait un joli rire. En d'autres temps, certes, je n'eusse point permis qu'on parlât ainsi à la légèreté de la dame en noir, mais je n'eus point de ce matin-là le courage de me fâcher. Au contraire, je ris avec ma mistress Edith. C'est que c'est un peu vrai, dis-je. Mon mari en est encore fou, mais jamais je ne l'aurais cru si romanesque. Mais moi aussi, ajouta-t-elle assez drôlement, je suis romanesque. Et elle me regarda de cet œil curieux qui déjà m'avait tant troublé. Ah, c'est tout ce que je trouvais à dire. Ainsi, j'ai beaucoup de plaisir, continua-t-elle, à la conversation du prince Galitch, qui est certainement plus romanesque que vous tous. Je dus faire une drôle de mine, car elle en marqua un bruyant amusement. Quelle petite femme bizarre! Alors je lui demandai qui était ce prince Galitch dont elle nous parlait souvent et qu'on ne voyait jamais. Elle me répliqua qu'on le verrait au déjeuner, car elle l'avait invité à notre intention et elle me donna sur lui quelques détails. J'appris ainsi que le prince Galitch est un des plus riches boyards de cette partie de la Russie appelée Terre Noire, féconde entre toutes, placée entre les forêts du Nord et les steppes du Midi. Héritier dès l'âge de 20 ans des plus vastes patrimoines moscovites, il avait su encore l'agrandir par une gestion économe et intelligente dont on n'eut point cru capable à un jeune homme qui avait eu jusqu'alors pour principale occupation la chasse et les livres. On le disait sobre, avare et poète. Il avait hérité de son père à la cour une haute situation. Il était chambellan de Sa Majesté et l'on supposait que l'empereur, à cause des immenses services rendus par le père, avait pris le fils en particulière affection. Avec cela, il était délicat comme une femme à la fois et fort comme un turc. Bref, ce gentilhomme russe avait tout pour lui. Sans le connaître, il m'était déjà antipathique. Quant à ses relations avec les Rances, elles étaient d'excellent voisinage. Ayant acheté depuis 2 ans la propriété magnifique, que ses jardins suspendus, ses terrasses fleuries, ses balcons embaumés avait fait surnommer à gare avant les jardins de Babylone, il avait eu l'occasion de rendre quelques services à Mistress Edith lorsque celle-ci avait achevé de transformer la baille du château en un jardin exotique. Il lui avait fait cadeau de certaines plantes qui avaient fait revivre dans quelques coins du fort d'Hercule une végétation à peu près retenue jusqu'alors aux rives du Tigre et de l'Euphrate. Monsieur Rance avait invité quelquefois le prince à dîner, à la suite de quoi le prince avait envoyé, en guise de fleurs, un palmier de Ninive ou un cactus dit de Sémiramis. Cela ne lui coûtait rien. Il en avait trop, il en était gêné, et il préférait garder pour lui les roses. Mistress Edith avait pris un certain intérêt à la fréquentation du jeune boyard à cause des vers qu'il lui disait. Après les lui avoir dits en russe, il les traduisait en anglais, et il lui en avait même fait en anglais pour elle seule. Des vers, de vrais vers de poète dédiés à Mistress Edith. Celle-ci en avait été si flattée qu'elle avait demandé à ce russe qui lui avait fait des vers anglais de les lui traduire en russe. C'étaient là les jeux littéraires qui amusaient beaucoup Mistress Edith, mais qu'Arthur Rance goûtait peu. Celui-ci ne cachait pas, du reste, que le prince Galitch ne lui plaisait qu'à moitié, et s'il en était ainsi, ce n'était point que la moitié qui déplaisait à M. Rance. Le prince Galitch fut précisément la moitié qui intéressait tant sa femme, c'est-à-dire la moitié poète, et non, c'était la moitié avare. Il ne comprenait pas qu'un poète fût avare. J'étais bien de son avis. Le prince n'avait point d'équipage. Il prenait le tramway et souvent faisait son marché lui-même, assisté de son seul domestique, Ivan, qui portait le panier aux provisions. « Et il se disputait, ajoutait la jeune femme, qui tenait ce détail de sa propre cuisinière, il se disputait chez les marchands de poissons à propos d'une rascasse pour 2 sous. Chose bizarre, cette extrême avarice ne répugnait point Mistress Edith, qui lui trouvait une certaine originalité. Enfin, nul n'était jamais entré chez lui. Jamais il n'avait invité les Rance à venir admirer ce jardin. « Il est beau ?» demandai-je à Mistress Edith quand celle-ci eut fini son panégyrique. « Trop beau !» me répliqua-t-elle. « Vous verrez !» Je ne saurais dire pourquoi cette réponse me fut particulièrement désagréable. Je ne fis qu'y penser après le départ de Mistress Edith et jusqu'à la fin de mon service de garde qui se termina à 11h30. Le premier coup de cloche du déjeuner venait de sonner. Je courus me laver les mains et faire un brin de toilette, et je montai les degrés de la louve rapidement, croyant que le déjeuner serait servi dans cette tour. Mais je m'arrêtai dans le vestibule, tout étonné d'entendre de la musique. Qui donc, dans les circonstances actuelles, osait au fort d'Hercule jouer du piano? Et mais on chantait. Oui, une voix douce, douce et mâle à la fois, en sourdine, chantait. C'était un chant étrange, une mélopée tantôt plaintive, tantôt menaçante. Oh, je la sais maintenant par cœur, je l'ai tant entendue depuis. Ah, vous la connaissez bien, peut-être, si vous avez franchi les frontières de la froide Lituanie, si vous êtes entré une fois dans le vaste empire du Nord. C'est le chant des vierges demi-nues qui entraîne le voyageur dans les flots et le noie sans miséricorde. C'est le chant du lac de Wills que Sienkiewicz a fait entendre un jour immortel à Michel Wierzchenskawa. Écoutez ça. Si vous approchez du Schwitzhauser de la nuit, le front tourné vers le lac, des étoiles sur vos têtes, des étoiles sous vos pieds et 2 lunes pareilles s'offriront à vos yeux. Tu vois cette plante qui caresse le rivage? Ce sont les épouses et les filles de Switès que Dieu a changées en fleurs. Elles balancent au-dessus de l'abîme leurs têtes blanches comme des phalènes, leurs feuilles vertes comme l'aiguille du mélèze argentée par les frimas. Image de l'innocence pendant la vie, elles ont gardé sa robe virginale après la mort, elles vivent dans l'ombre et ne souffrent point de souillure, des mains mortelles n'oseraient y toucher. Le tsar et sa horde en firent un jour l'expérience, lorsqu'après avoir cueilli ces belles fleurs, ils voulurent en orner leurs tempes et leurs casques d'acier. Tous ceux qui étendirent leurs mains sur les flots, si terrible est le pouvoir de ces fleurs, furent atteints du haut mal ou frappés de mort subite. Quand le temps eut effacé ces choses de la mémoire des hommes, seul le souvenir du châtiment s'est conservé pour le peuple, et le peuple, en le perpétuant par ses récits, appelle aujourd'hui tsar les fleurs du Switèze. Cela disant, la dame du lac s'éloigna lentement. Le lac s'entr'ouvrit jusqu'au plus profond de ses entrailles, mais le regard cherchait en vain la belle inconnue qui s'était couvert la tête d'une vague et dont on n'a jamais plus entendu parler. C'étaient les paroles mêmes, les paroles traduites de la chanson que murmurait la voix à la fois douce et mâle pendant que le piano laissait entendre un accompagnement mélancolique. Je poussai la porte de la salle et je me trouvai en face d'un jeune homme qui se leva. Aussitôt derrière moi, j'entendis le pas de Mistress Edith. Elle nous présenta. J'avais devant moi le prince Galitch. Le prince était ce que l'on est convenu d'appeler dans les romans un beau et pensif jeune homme. Son profil droit et un peu dur aurait donné à sa physionomie un aspect particulièrement sévère si ses yeux, d'une clarté, d'une douceur et d'une candeur troublantes, n'eussent laissé transparaître une âme presque enfantine. Ils étaient entourés de longs cils noirs, si noirs qu'ils ne l'eussent point été davantage s'ils avaient été brossés au col. Et quand on avait remarqué cette particularité des cils, on avait du coup saisi la raison de toute l'étrangeté de cette physionomie. La peau du visage était presque trop fraîche, ainsi qu'elle l'est au visage des femmes savamment maquillées et des phtisiques. Telle fut mon impression, mais j'étais trop intimement prévenu contre ce prince Galitch pour y attacher raisonnablement quelque importance. Je le jugeais trop jeune, sans doute parce que je ne l'étais plus assez. Je ne trouvais rien à dire à ce trop beau jeune homme qui chantait des poèmes si exotiques. Mistress Edith sourit de mon embarras, me prit le bras, ce qui me fit grand plaisir, et nous emmena à travers les buissons parfumés de la baille, en attendant le second coup de cloche du déjeuner qui devait être servi sous la cabane de palmes sèches au terre-plein de la tour du Téméraire. Deuxièmement, le déjeuner et ce qui s'ensuivit, une terreur contagieuse s'empare de nous. À midi, nous nous mettions à table sur la terrasse du Téméraire, d'où la vue était incomparable. Les feuilles de palmiers nous couvraient d'une ombre propice. Mais hors de cette ombre, l'embrasement de la terre et des cieux était tel que nos yeux n'en auraient pu supporter l'éclat si nous avions tous pris la précaution de mettre ces binocles noirs dont j'ai parlé au début de ce chapitre. À ce déjeuner se trouvaient M. Stangerson, Mathilde, le vieux Bob, M. Darzac, M. Arthur Hans, Mistress Edith, Rouletabille, le prince Galitch et moi. Rouletabille tournait le dos à la mer, s'occupant fort peu des convives, et était placé de telle sorte qu'il pouvait surveiller tout ce qui se passait dans toute l'étendue du château fort. Les domestiques étaient à leur poste, le père Jacques à la grille d'entrée, Mattoni à la poterne du jardinier, et les Berniers dans la tour carrée devant la porte de l'appartement de M. et de Mme Darzac. Le début du repas fut assez silencieux. Nous étions presque inquiétants à force contempler autour de cette table muet, penchant les uns vers les autres, nos vitres noires derrière lesquelles il était aussi impossible d'apercevoir nos prunelles que nos pensées. Le prince Galitch parla le premier. Il fut tout à fait aimable avec Rouletabille, et comme il essayait un compliment sur la renommée du reporter, celui-ci le bouscula un peu. Le prince n'en parut point froissé, mais il expliqua qu'il s'intéressait particulièrement aux faits et gestes de mon ami en sa qualité de sujet du tsar, depuis qu'il savait que Rouletabille devait partir prochainement pour la Russie. Mais le reporter répliqua que rien encore n'était décidé et qu'il attendait des ordres de son journal. Sur quoi le prince s'étonna en tirant un journal de sa poche. C'était une feuille de son pays dont il nous traduisit quelques lignes, annonçant l'arrivée prochaine à Saint-Pétersbourg de Rouletabille. Il se passait là-bas, ce que nous conta le prince, des événements si incroyables et si dénués apparemment de logique dans la haute sphère gouvernementale, que sur le conseil même du chef de la Sûreté de Paris, le maître de la police avait résolu de prier le journal L'Époque de lui prêter son jeune reporter. Le prince Galitch avait si bien présenté la chose que Rouletabille rougit jusqu'aux deux oreilles et qu'il répliqua sèchement qu'il n'avait jamais, même dans sa courte vie, fait œuvre policière et que le chef de la Sûreté de Paris, le maître de la police de Saint-Pétersbourg, étaient deux imbéciles. Le prince se prit à rire de toutes ses dents, qu'il avait belles, et vraiment je vis bien que son sourire n'était point beau, mais féroce et bête, ma foi comme un sourire d'enfant dans une bouche de grande personne. Il fut tout à fait de l'avis de Rouletabille, et pour le prouver, il ajouta « Oui, vraiment, on est heureux de vous entendre parler de la sorte, car on demande maintenant aux journalistes des besognes qui n'ont point à faire avec un véritable homme de lettres. » Rouletabille, indifférent, laissa tomber la conversation. Mistress Edith la releva en parlant avec extase de la splendeur de la nature. Mais pour elle, il n'était rien de plus beau sur la côte que les jardins de Babylone, et elle le dit. Elle ajouta avec malice « Ils nous paraissent d'autant plus beaux qu'on ne peut les voir que de loin. » L'attaque était si directe que je crus que le prince allait y répondre par une invitation. Mais il n'en fut rien. Mistress Edith marqua un léger dépit et elle déclara tout d'un coup « Je ne veux point vous mentir, prince. Vos jardins, je les ai vus. » « Comment cela ?» interrogea Galitch avec un singulier sang-froid. « Oui, je les ai visités, et voici comment. » Alors elle raconta, pendant que le prince se raidissait en une attitude glacée, comment elle avait vu les jardins de Babylone. Elle y avait pénétré comme par mégarde, par derrière, en poussant une barrière qui faisait communiquer directement ses jardins avec la montagne. Elle avait marché d'enchantement en enchantement, mais sans être étonnée. Quand on passait sur le bord de la mer, ce que l'on apercevait des jardins de Babylone l'avait préparé aux merveilles dont elle violait si audacieusement le secret. Elle était arrivée auprès d'un petit étang, tout petit, noir comme de l'encre, et sur la rive duquel se tenait un grand lys d'eau et une petite vieille toute ratatinée, au menton en galoche. En l'apercevant, le grand lys d'eau et la petite vieille s'étaient enfuis. Celle-ci, si légère qu'elle s'appuyait pour courir sur celui-là, comme eût fait d'un bâton. Mistress Edith avait bien ri, elle avait appelé « Madame, madame !» Mais la petite vieille n'en avait été que plus épouvantée, et elle avait disparu avec son lys derrière un figuier de Barbarie. Mistress Edith avait continué sa route, mais ses pas étaient devenus plus inquiets. Soudain, elle avait entendu un grand froissement de feuillage et ce bruit particulier que font les oiseaux sauvages quand, surpris par le chasseur, ils s'échappent de la prison de verdure où ils se sont blottis. C'était une seconde petite vieille, plus ratatinée encore que la première, mais moins légère, et qui s'appuyait sur une vraie canne à bec de corbin. Elle s'évanouit, enfin c'est-à-dire que Mistress Edith l'a perdue de vue au détour du sentier. et une troisième petite vieille, appuyée sur deux cannes à bec de corbin, surgit encore du mystérieux jardin. Elle s'échappa du tronc d'un eucalyptus géant, et elle allait d'autant plus vite qu'elle avait pour courir quatre pattes, tant de pattes qu'il était tout à fait étonnant qu'elle ne s'y embrouillât point. Mistress Edith avançait toujours, et ainsi elle parvint jusqu'au perron de marbre habillé de rose de la villa. Mais, la gardant, les trois petites vieilles étaient alignées sur la plus haute marche, comme trois corneilles sur une branche, et elles ouvrirent leur bec menaçant d'où s'échappèrent des croassements de guerre. Ce fut au tour de Mrs. Edith de s'enfuir. Mrs. Edith avait raconté son aventure d'une façon si délicieuse et avec tant de charme emprunté à une littérature falote et enfantine que j'en fus tout bouleversé et que je compris combien certaines femmes, qui n'ont rien de naturel, peuvent l'emporter dans le cœur d'un homme sur d'autres qui n'ont pour elles que la nature. Le prince ne parut nullement embarrassé de cette petite histoire. Il dit, sans sourire, « Ce sont mes trois fées. Elles ne m'ont jamais quitté depuis que je suis né au pays de Galitch. Je ne puis travailler ni vivre sans elles. Je ne sors que lorsqu'elles me le permettent, et elles viennent sur mon labeur poétique avec une jalousie féroce. » Le prince n'avait pas fini de nous donner cette fantaisiste explication de la présence des trois vieilles au jardin de Babylone, que Walter, le valet du vieux Bob, apporta une dépêche à Rouletabille. Celui-ci demanda la permission de l'ouvrir et il lut tout haut « Revenez le plus tôt possible, vous attendons avec impatience, magnifique reportage à faire à Pétersbourg. » Cette dépêche était signée du rédacteur en chef de l'époque. « Eh, qu'en dites-vous, monsieur Rouletabille ?» demanda le prince. « Ne trouvez-vous point maintenant que j'étais bien renseigné ?» La dame en noir n'avait pu retenir un soupir. « Non, je n'irai pas à Pétersbourg, » déclara Rouletabille. « On le regrettera à la cour, » fit le prince, « j'en suis sûr. » « Et permettez-moi de vous dire, jeune homme, que vous manquez l'occasion de votre fortune. » Le jeune homme déplut singulièrement à Rouletabille, qui ouvrit la bouche pour répondre au prince, mais qui la referma à mon grand étonnement, sans avoir répondu. Et le prince continua. « Vous eussiez trouvé là-bas un terrain d'expérience digne de vous. » On peut tout espérer quand on a été assez fort pour dévoiler un larcin. Le mot tomba au milieu de nous avec fracas, et nous nous réfugiâmes derrière nos vitres noires d'un commun mouvement. Le silence qui suivit fut horrible. Nous restions maintenant immobiles autour de ce silence-là, comme des statues. Larcin. Et pourquoi ce nom que nous avions prononcé si souvent depuis 48 heures, ce nom qui représentait un danger avec lequel nous commencions de nous familiariser, pourquoi à ce moment précis, ce nom nous produisit-il un effet que, pour ma part, je n'avais encore jamais aussi brutalement ressenti? Il me semblait que j'étais sous le coup de foudre d'un geste magnétique. Un malaise indéfinissable se glissait dans mes veines. J'aurais voulu fuir, et il me parut que si je me levais, je n'aurais point la force de me contenir. Le silence que nous continuions à garder contribuait à augmenter cet incroyable état d'hypnose. Pourquoi ne parlait-on pas? Qu'est-ce que faisait la gaieté du vieux Bob? On n'avait pas entendu au repas. Et les autres, pourquoi restaient-ils muets derrière leurs vitres noires? Tout à coup, je tournai la tête et je regardai derrière moi. Alors je compris à ce geste instinctif que j'étais la proie d'un phénomène tout naturel. Quelqu'un me regardait. Deux yeux étaient fixés sur moi, pesaient sur moi. Je ne vis point ses yeux et je ne sus d'où me venait ce regard, mais il était là, je le sentais, et c'était son regard à lui. Et cependant, il n'y avait personne derrière moi, ni à droite, ni à gauche, ni en face. Personne autour de moi que les gens qui étaient assis à cette table, immobiles derrière leur binocle noir. Alors j'eus la certitude que les yeux de Larsan me regardaient derrière l'un de ces binocles-là. Ah, les vitres noires derrière lesquelles se cachait Larsan. Et puis, tout à coup, je ne sentis plus rien. Le regard, sans doute, avait cessé de regarder. Je respirais. Un double soupir répondit au mien. Est-ce que Rouletabille, est-ce que la dame en noir aurait eux aussi supporté le même poids, dans le même moment, le poids de ses yeux? Et le vieux Bob disait, « Prince, je ne crois point que votre dernier rossa moelle du milieu de la période quaternaire. » Et tous les binocles noirs remuèrent. Rouletabille se leva et me fit un signe. Je le rejoignis hâtivement dans la salle du conseil. Aussitôt que je me présentai, il ferma la porte et me dit, « Eh bien, l'avez-vous senti ?» J'étouffais, je murmurais, « Il est là ? Il est là, mais à moins que nous ne devions fous !» Un silence et je repris plus calme. « Vous savez, Rouletabille, qu'il est très possible que nous devenions fous. Cette hantise de Larsan nous conduira au cabanon, mon ami. Il n'y a pas deux jours que nous sommes enfermés dans ce château, et vous voyez déjà dans quel état. » Rouletabille m'interrompit. « Non, non, je le sens, il est là. Je le touche, mais où, mais quand ? Depuis que je suis entré ici, je sens qu'il ne faut pas que je m'en éloigne. Oh, je ne tomberai pas dans le piège. Je n'irai pas le chercher dehors, bien que je l'ai vu dehors, bien que vous l'ayez vu vous-même dehors. » Puis il s'est calmé tout à fait, a froncé les sourcils, a allumé sa bouffarde et a dit comme au beau jour où sa raison, qui ignorait encore le lien qui l'unissait à la dame en noir, n'était pas troublée par les mouvements de son cœur, oui, raisonnons. Et il en revint tout de suite à cet argument qui nous avait déjà servi et qu'il se répétait sans cesse à lui-même pour ne point, disait-il, se laisser séduire par le côté extérieur des choses. Ne point chercher Larsan là où il se montre, mais le chercher partout où il se cache. Ceci suivi de cet autre argument complémentaire, il ne se montre si bien là où il paraît être que pour qu'on ne le voie pas là où il est. Et il reprit. « Ah ! Le côté extérieur des choses. Voyez-vous, c'est clair. Il y a des moments où, pour raisonner, je voudrais pouvoir m'arracher les yeux. Arrachons-nous les yeux, Saint-Clair, 5 minutes, 5 minutes seulement, et nous verrons peut-être clair. » Il s'assit, posa sa pipe sur la table, se prit la tête dans les mains et dit « Voici, voilà, je n'ai plus Dieu. Dites-moi, Saint-Clair, qu'y a-t-il à l'intérieur des pierres ? Qu'est-ce que je vois à l'intérieur des pierres ? » répétai-je. « et non, vous n'avez plus Dieu, vous ne voyez plus rien. » Énumérez, sans voir, énumérez-les tous. Bien, il y a d'abord vous et moi, fis-je, comprenant enfin où il voulait en venir. Très bien. Ni vous ni moi, continuai-je, nous sommes Larsan. Pourquoi ? Pourquoi? Dites-le donc. Il faut que vous me disiez pourquoi. J'admets, moi, que je ne suis pas Larsan, j'en suis sûr, puisque je suis Rouletabille, mais vis-à-vis de Rouletabille. Me direz-vous pourquoi vous n'êtes pas Larsan? Parce que vous l'auriez bien vu. Malheureux, hurla Rouletabille, en s'enfonçant avec plus de force les poings dans les yeux. Je n'ai plus Dieu, je ne peux pas vous voir. Si Jarry de la brigade des Jeux n'avait pas vu s'asseoir à la banque de Trouville le comte de Maupas, il aurait juré, par la seule vertu du raisonnement, que l'homme qui prenait alors les cartes était Ballmeyer. Si Noblet de la brigade des Garnis ne s'était trouvé face à face un soir chez la Troyon avec un homme qu'il reconnut pour être le vicomte Drouet d'Alcelon, il aurait juré que l'homme qu'il venait d'arrêter, qu'il n'arrêta pas, parce qu'il l'avait vu, était Ballmeyer. Si l'inspecteur Giraud, qui connaissait le comte de Bonneville comme vous me connaissez, n'avait pas vu un après-midi aux courses de Longchamp, causant à deux de ses amis dans le passe-pesage, n'avait pas vu, dis-je, le comte de Bonneville, il eût arrêté Ballmeyer, hein, voyez-vous, Sinclair, ajouta le jeune homme d'une voix sourde et frémissante. Mon père est né avant moi, il faut être bien fort pour arrêter mon père. Ceci fut dit avec tant de désespoir que le peu de force que j'avais de raisonner s'évanouit tout à fait. Je me bornai à lever les mains au ciel, geste que Rouletabille ne vit point car il ne voulait plus rien voir. « Non, non, il ne faut plus rien voir, » répéta-t-il, « ni vous, ni M. Stangerson, ni M. Darzac, ni Arthur Ross, ni le vieux Bob, ni le prince Galitch. Mais il faut savoir pourquoi aucun de ceux-là ne peut être Larsan. Seulement, alors, seulement, je respirerai derrière les pierres. » Moi, je ne respirais plus. On entendait sous la voûte de la poterne le pas régulier de Matt Tony qui montait sa garde. « Eh bien, et les domestiques, » fis-je avec effort, « et Matt Tony et les autres ?»« Je sais, oui, mais je suis sûr qu'ils n'ont point quitté le fort d'Hercule pendant que Larsan apparaissait à Madame Darzac et à Monsieur Darzac en garde-bourg. » avouez encore, Rouletabille, » fis-je, que ne vous vous en occupez pas parce que tout à l'heure, il n'était point derrière les binocles noirs. Rouletabille frappa du pied et s'écria. Mais taisez-vous, Sinclair, vous allez me rendre encore plus nerveux que ma mère. Cette phrase, dite dans la colère, me frappa étrangement. J'eus voulu questionner Rouletabille sur l'état d'esprit de la dame en noir, mais il avait repris posément. Bon, premièrement, Sinclair n'est pas Larsan, puisque Sinclair était au Tréport avec moi pendant que Larsan était à Bourg. Deuxièmement, le professeur Stangerson n'est pas Larsan, puisqu'il était sur la ligne de Dijon à Lyon pendant que Larsan était à Bourg. En effet, arrivés à Lyon, une minute avant lui, M. et Mme Larzac le virent descendre de son train. Mais tous les autres, s'il est suffisant de pouvoir être à Bourg à ce moment-là pour être Larsan, peuvent être Larsan, car tous pouvaient être à Bourg. D'abord, M. Darzac y était. Ensuite, Arthur Hans a été absent les deux jours qui ont précédé l'arrivée du professeur et de M. Darzac. Il arrivait tout juste à Menton pour les recevoir. Mistress Edith elle-même, sur mes questions que je posais à bon escient, m'a avoué que ces deux jours-là, son mari avait dû s'absenter pour affaires. Le vieux Bob faisait son voyage à Paris. Enfin, le prince Galich n'a pas été vu aux grottes ni hors des jardins de Babylone. Prenons d'abord M. Darzac. « Rouletabille, » m'écriai-je, « c'est un sacrilège. »« Mais je le sais bien. »« C'est une stupidité. »« Je le sais aussi, mais pourquoi ?»« Parce que, fis-je hors de moi, Larsan a beau avoir du génie, il pourra peut-être tromper un policier, un journaliste, un reporter, et, je le dis, un rouletabille, il pourra peut-être tromper une fille au point de se faire passer pour son père, ceci pour vous rassurer sur le cas de M. Stangerson, mais jamais il ne pourra tromper une femme au point de se faire passer pour son fiancé. Eh, mon ami, Mathilde Stangerson connaissait M. Darzac avant qu'elle n'eût franchi à son bras le fort d'Hercule. Et elle connaissait aussi Larsan, ajouta froidement Rouletabille. Eh bien, mon cher, vos raisons sont puissantes, mais comme, oh l'ironie de cela, je ne sais pas au juste jusqu'où va le génie de mon père. J'aime mieux, pour rendre à M. Robert Darzac une personnalité que je n'ai jamais songé à lui enlever, me baser sur un argument un peu plus solide. Si Robert Darzac était Larsan, Larsan ne serait pas apparu à plusieurs reprises à Mathilde Stangerson, puisque c'est la réapparition de Larsan qui enlève Mathilde Stangerson à Robert Darzac. Eh, oh, m'écriai-je, à quoi bon tant de vain raisonnement quand on n'a qu'à ouvrir les yeux? Où allez, Rouletabille? Il les ouvrit. Sur qui? Fit-il avec une amertume sans égale. Sur le prince Galitch? Pourquoi pas? Il vous plaît à vous, ce prince de la Terre Noire qui chante des chansons lituaniennes? « Non, répondit Rouletabille, mais il plaît à Mistress Edith. » Et il ricana. Je serrai les poings. Il s'en aperçut, mais fit tout comme s'il ne s'en apercevait pas. Le prince Galitch est un nihiliste qui ne m'occupe guère, fit-il tranquillement. Vous en êtes sûr? Qui vous a dit? La femme de Bernier connaît l'une des trois petites vieilles dont nous a parlé au déjeuner Mistress Edith. J'ai fait une enquête. C'est la mère d'un des trois pendus de Kazan qui avait voulu faire sauter l'empereur. J'ai vu la photographie des malheureux. Les deux autres vieilles sont les deux autres mères. Aucun intérêt, fit brusquement Rouletabille. Je ne pus retenir un geste d'admiration. Vous ne perdez pas votre temps. L'autre non plus, gronda-t-il. Je croisai les bras. Et le vieux Bob, fis-je. Non, mon cher, non, souffla Rouletabille, presque avec rage. Celui-là, non. Vous avez vu qu'il a une perruque, n'est-ce pas? Eh bien, je vous prie de croire que lorsque mon père met une perruque, cela ne se voit pas. Il me dit cela si méchamment que je me disposais à le quitter. Il m'arrêta. Eh bien, mais nous n'avons rien dit d'Arthur Hans. Oh, celui-là n'a pas changé, dis-je. Toujours les yeux, mais prenez garde à vos yeux, Sinclair. Et il me serra la main. Je sentis que la sienne était moite et brûlante. Il s'éloigna. Je restai un instant sur place, songeant à quoi? À ceci, que j'avais tort de prétendre qu'Arthur Lance n'avait pas changé. D'abord maintenant, il laissait pousser un soupçon de moustache, ce qui était tout à fait anormal pour un Américain routinier de sa trempe. Ensuite, il portait les cheveux plus longs, avec une large mèche collée sur le front. Ensuite, oh, je ne l'avais pas vu depuis 2 ans. On change toujours en 2 ans. Et puis Arthur Hans, qui ne buvait que de l'alcool, ne boit plus que de l'eau. Mais alors, Mistress Edith, qu'est-ce que Mistress Edith? Ah, ça, est-ce que je deviens fou, moi aussi? Pourquoi dis-je moi aussi? Comme la dame en noir, comme Rouletabille? Est-ce que je ne trouve pas que Rouletabille devient un peu fou? Ah, la dame en noir nous a tous ensorcelés. parce que la dame en noir vit dans le perpétuel frisson de son souvenir, voilà que nous tremblons du même frisson qu'elle. La peur, ça se gagne, comme le choléra. Troisièmement, de l'emploi de mon après-midi jusqu'à 5 heures. Je profitais de ce que je n'étais point de garde pour aller me reposer dans ma chambre. Mais je dormis mal, ayant rêvé tout de suite que le vieux Bob, M. Rance et Mistress Edith formaient une affreuse association de bandits qui avaient juré notre perte à Rouletabille et à moi. Et quand je me réveillais sous cette impression funèbre, et que je revis les vieilles tours et le vieux château, toutes ces pierres menaçantes, je ne fus pas loin de donner raison à mon cauchemar, et je me dis tout haut, « Mais dans quel repère sommes-nous venus nous réfugier ?» Je mis le nez à la fenêtre. Mistress Edith passait dans la cour du téméraire, s'entretenant négligemment avec Rouletabille et roulant entre ses jolis doigts fuselés une rose éclatante. Je descendis aussitôt, mais arrivé dans la cour, je ne la trouvais plus. Je suivis Rouletabille qui entrait faire son tour d'inspection dans la tour carrée. Je le vis très calme et très maître de sa pensée, très maître aussi de ses yeux qu'il ne fermait plus. Oh, c'était toujours un spectacle de le voir regarder les choses autour de lui. Rien ne lui échappait. La tour carrée, habitation de la dame en noir, était l'objet de son constant souci. Et à ce propos, je crois opportun, quelques heures avant le moment où va se produire la tant mystérieuse attaque, de donner ici le plan intérieur de l'étage habité de cette tour, étage qui se trouvait de plein pied avec la cour de Charles le Téméraire. Ici, le plan. Quand on entrait dans la tour carrée par la seule porte K, on se trouvait dans un large corridor qui avait fait partie autrefois de la salle des gardes. La salle des gardes prenait autrefois tout l'espace O1, O2, O3 et était fermée de murs de pierre qui existaient toujours avec leurs portes donnant sur les autres pièces du vieux château. C'est Mistress Arthur Rance qui, dans cette salle des gardes, avait fait élever des murailles de planches de façon à constituer une pièce assez spacieuse qu'elle avait le dessein de transformer en salle de bain. Cette pièce même était entourée maintenant par les deux couloirs à angle droit, O, O1 et O1, O2. La porte de cette pièce, qui servait de loge au bernier, était située en S. On était dans la nécessité de passer devant cette porte pour se rendre en R, où se trouvait l'unique porte permettant d'entrer dans l'appartement des Darzac. L'un des époux Bernier devait toujours se tenir dans la loge, et il n'y avait qu'eux qui avaient le droit d'entrer dans leur loge. De cette loge, on surveillait également, par une petite fenêtre pratiquée en Y, la porte V qui donnait sur l'appartement du vieux Bob. Quand M. et Mme Darzac ne se trouvaient point dans leur appartement, l'unique clé qui ouvrait la porte R était toujours chez les Bernier. C'était une clé spéciale et toute neuve, fabriquée la veille dans un endroit que seul Rouletabille connaissait. Le jeune reporter avait posé la serrure lui-même. Rouletabille aurait bien désiré que la consigne qu'il avait imposée pour l'appartement d'Arzac fut également suivie pour l'appartement du vieux Bob, mais celui-ci s'y était opposé avec un éclat comique auquel il avait fallu céder. Le vieux Bob ne voulait pas être traité comme un prisonnier, et il tenait absolument à entrer chez lui et à en ressortir quand il en prenait fantaisie, sans avoir à demander sa clé au concierge. Sa porte resterait ouverte et ainsi il pourrait autant de fois qu'il lui plairait se rendre de sa chambre ou de son salon à son bureau installé dans la tour de Charles le Téméraire sans déranger personne et sans se tourmenter de personne. Mais pour cela, il fallait encore laisser la porte K ouverte. Il l'exigea et Mistress Edith donna raison à son oncle, sur un ton d'ironie telle, ironie qui s'adressait à la prétention que pouvait avoir Rouletabille de traiter le vieux Bob à l'instar de la fille du professeur Stangerson, que Rouletabille n'insista pas. Mistress Edith lui avait dit de ses lèvres minces « Mais monsieur Rouletabille, mon oncle lui ne craint pas qu'on l'enlève. » Et Rouletabille avait compris qu'il n'avait plus qu'à rire avec le vieux Bob de cette idée saugrenue qu'on put enlever comme une jolie femme l'homme dont le principal attrait était de posséder le plus vieux crâne de l'humanité. Et il avait ri. Il avait même ri plus fort que le vieux Bob. Mais à une condition, c'est que la porte K fût fermée à clé passé 10 heures du soir et que cette clé restât toujours en possession des Bernier qui viendraient lui ouvrir s'il y avait lieu. Ceci encore dérangeait le vieux Bob qui travaillait quelquefois très tard dans la tour de Charles le Téméraire. Mais non plus il ne voulait avoir l'air de contrecarrer en tout ce brave monsieur Rouletabille qui avait, disait-il, peur des voleurs. Car il faut tout de suite faire observer à la décharge du vieux Bob que, s'il se prêtait si peu aux consignes défensives de notre jeune ami, c'est qu'on n'avait point jugé utile de le mettre au courant de la résurrection de l'Arsam Balbeyer. Il avait bien entendu parler des malheurs extraordinaires qui avaient fondu autrefois sur cette pauvre mademoiselle Stangerson, mais il était à 100 lieues de penser qu'elle n'avait point rompu avec ces malheurs-là depuis qu'elle s'appelait Madame Darzac. Et puis le vieux Bob était un égoïste comme presque tous les savants. Très heureux, à cause qu'il possédait le plus vieux crâne de l'humanité, il ne pouvait concevoir que tout le monde ne le fût point autour de lui. Rouletabille, après s'être aimablement enquis de la santé de la mère Bernier, qui était en train d'éplucher les pommes de terre, dites saucisses, dont un grand sac à ses côtés était plein, pria le père Bernier de nous ouvrir la porte de l'appartement d'Arzac. C'était la première fois que je pénétrais dans la chambre de M. d'Arzac. L'aspect en était glacial. Elle me parut froide et sombre. La pièce, très vaste, était meublée fort simplement d'un lit de chêne, d'une table toilette que l'on avait glissée dans l'une des deux ouvertures. J, pratiquée dans la muraille autour de ce qui avait été autrefois des meurtrières. Si épaisse était la muraille et si grande l'ouverture que toute cette embrasure formait une sorte de petite chambrette dans la grande, et M. d'Arzac en avait fait son cabinet de toilette. La seconde fenêtre, J', était plus petite. Ces deux fenêtres étaient garnies de barreaux épais entre lesquels on pouvait à peine passer le bras. Le lit, haut sur pied, était adossé à la muraille extérieure et poussé contre la cloison de pierre qui séparait la chambre de M. d'Arzac de celle de sa femme. En face, dans l'angle de la tour, se trouvait un placard. Au centre de la chambre, une table guéridon, sur laquelle on avait déposé quelques livres de science et tout ce qu'il fallait pour écrire. Et puis, un fauteuil et 3 chaises. C'était tout. Il était absolument impossible de se cacher dans cette chambre, si ce n'est naturellement dans le placard. Aussi, le père et la mère Bernier avaient-ils reçu l'ordre de visiter, chaque fois qu'ils faisaient l'appartement, ce placard où M. d'Arzac enfermait ses vêtements. Et Rouletabille lui-même, qui, en l'absence des d'Arzac, venait de temps à autre jeter dans les chambres de la tour carrée le coup d'œil du maître, ne manquait-il jamais de le fouiller? Il le fit encore devant moi. Quand nous passâmes ensuite dans la chambre de Madame d'Arzac, nous étions bien sûrs que nous n'étions personne derrière nous chez M. d'Arzac. Aussitôt entré dans l'appartement, Bernier, qui nous avait suivis, avait eu soin, comme il le faisait toujours, de tirer les verrous qui fermaient intérieurement l'unique porte faisant communiquer l'appartement avec le corridor. La chambre de Madame Darzac était plus petite que celle de son mari, mais bien éclairée à cause de la disposition spéciale des fenêtres et gaie. Aussitôt qu'il y eut mis les pieds, je vis Rouletabille pâlir et tourner vers moi son bon et alors mélancolique visage. Il me dit « Eh bien, Sinclair, le sentez-vous, le parfum de la dame en noir ?» Ma foi, non, je ne sentais rien du tout. La fenêtre, garnie de barreaux comme toutes les autres qui donnaient sur la pleine mer, était du reste grande ouverte et une brise légère faisait volter l'étoffe que l'on avait tirée sur une tringle au-dessus d'une penderie qui garnissait un côté de la muraille. L'autre côté était occupé par le lit. Cette penderie était si haut placée que les robes et peignoirs qui la garnissaient et que l'étoffe qui la recouvrait ne tombaient point jusqu'au parquet, de telle sorte qu'il eût été absolument impossible à quelqu'un qui eût voulu se cacher là de dissimuler ses pieds et le bas de ses jambes. Comme la tringle sur laquelle glissaient les porte-manteaux était les plus légères, il n'eût pu également s'y suspendre. Rouletabille n'en examina pas moins avec soin cette garde-robe. Pas de placard dans cette pièce. Table toilette, table bureau, un fauteuil, deux chaises et les quatre murs, entre lesquels personne que nous, en toute vérité évidente, du bon Dieu. Rouletabille, après avoir regardé sous le lit, donna le signal du départ et nous balaya d'un geste de l'appartement. Il en sortit le dernier. Bernier ferma aussitôt la porte avec la petite clé qu'il remit dans la poche du haut de son veston, que fermait une boutonnière qu'il boutonna. Nous fîmes le tour des corridors et aussi celui de l'appartement du vieux Bob, composé d'un salon et d'une chambre aussi facile à visiter que l'appartement d'Arzac. Personne dans l'appartement, ameublement sommaire, un placard, une bibliothèque à peu près vide aux portes ouvertes. Quand nous sortîmes de l'appartement, la mère Bernier venait de placer sa chaise sur le pas de sa porte, ce qui lui permettait de voir plus clair à sa besogne, qui était toujours celle du pelage des pommes de terre dites saucisses. Nous entrâmes dans la pièce occupée par les Bernier et la visitâmes comme le reste. Les autres étages étaient inhabités et communiquaient avec le rez-de-chaussée par un petit escalier intérieur qui commençait dans l'angle O3 pour aboutir au sommet de la tour. Une trappe dans le plafond de la pièce habitée par les Bernier fermait cet escalier. Rouletabille demanda un marteau et des clous et encloua la trappe. Cet escalier devenait inutilisable. On pouvait dire en principe et en fait que rien n'échappait à Rouletabille et que celui-ci, ayant fait sa tournée dans la tour carrée, n'y laissa personne d'autre que le père et la mère Bernier quand nous en fûmes sortis tous deux. On peut dire également qu'aucun être humain ne se trouvait dans l'appartement des Darzac avant que Bernier, quelques minutes plus tard, ne l'eût ouvert lui-même à M. Darzac, ainsi que je vais le raconter. Il était environ 5h05, quand, laissant Bernier dans son corridor devant la porte de l'appartement d'Arzac, Rouletabille et moi, nous nous retrouvâmes dans la cour du Téméraire. À ce moment, nous gagnions le terre-plein de l'ancienne tour B2. Nous nous asseyions sur le parapet, les yeux tournés vers la terre, attirés par la réverbération sanglante des rochers rouges. Justement, voilà que nous apercevons vers le bord de la Barma Grande, qui ouvre sa gueule mystérieuse dans la face flamboyante des Brausse Russe, la silhouette agitée funéraire du vieux Bob. Il est la seule chose noire dans la nature. La falaise rouge surgit des eaux dans un tel élan radieux qu'on pourrait la croire toute chaude et toute fumante encore de feu central qu'il a mis au monde. Par quel prodigieux anachronisme, ce moderne croque-mort, avec sa redingote et son chapeau haut de forme, s'agite-t-il grotesque et macabre devant cette caverne 300 fois millénaire, creusée dans la lave ardente pour servir de premier toit à la première famille au premier jour de la terre? Et pourquoi ce fossoyeur sinistre dans ce décor embrasé? Nous le voyons brandir son crâne et nous l'entendons rire, rire, rire. Et son rire nous fait mal maintenant, nous déchire les oreilles et le cœur. Du vieux Bob, notre attention s'en va à M. Robert Darzac, qui vient de passer la poterne du jardinier qui traverse la cour du téméraire. Il ne nous voit pas. Oh, il ne rit pas, lui. Rouletabille le plaint, et il comprend qu'il soit à bout de patience. Dans l'après-midi, il a encore dit à mon ami qui me l'a répété, « 8 jours, c'est beaucoup. Je ne sais pas si je pourrais supporter ce supplice encore 8 jours. »« Et où irez-vous, lui ?» demanda Rouletabille. « À Rome, » a-t-il répondu. Évidemment, la fille du professeur Stangerson ne le suivra maintenant que là et où Rouletabille croit que c'est cette idée que le pape pourra arranger son affaire qui a mis ce voyage dans la cervelle de ce pauvre monsieur Darzac. Pauvre, pauvre monsieur Darzac. Non, vraiment, il ne faut pas en sourire. Nous ne le quittons pas des yeux jusqu'à la porte de la tour carrée. Il est certain qu'il n'en peut plus. Sa taille s'est encore voûtée, il a les mains dans les poches, il a l'air dégoûté de tout. Oui, il a l'air dégoûté de tout avec ses mains dans ses poches. Mais patience, il sortira les mains de ses poches et l'on ne sourira pas toujours. Et je puis l'avouer, moi, tout de suite, moi qui ai souri. Eh bien, monsieur Darzac m'a procuré, grâce à l'aide géniale de Rouletabille, le frisson d'épouvante le plus affreux qui puisse secouer les moelles humaines en vérité. Alors, mais qu'est-ce qu'il aurait cru ? Monsieur Darzac s'enfuit tout droit à la tour carrée, où il trouva naturellement Bernier qui lui ouvrit son appartement. Comme Bernier était sorti devant la porte de l'appartement, qu'il avait la clé dans sa poche et que dans l'appartement il fut établi par la suite qu'aucun barreau n'avait été scié, nous établissons que lorsque M. Darzac entre dans sa chambre, il n'y a personne dans l'appartement. Et c'est la vérité. Évidemment, tout cela a été bien précisé après, par chacun de nous. Mais si je vous en parle avant, c'est que je suis déjà hanté par l'inexplicable qui se prépare dans l'ombre et qui est prêt à éclater. À ce moment, il est 5 heures.